Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Alors que l'application du plan américain prévoyant l'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël fait l'actualité de cet été, les Palestiniens ne désarment pas dans leur volonté de vivre comme tout le monde. C'est ainsi que des DJ organisent des rencontres pour partager une passion, le hip-hop et la musique électro. Arabes israéliens d'un côté, Palestiniens de l'autre, Haïfa et Ramallah, les mêmes espoirs côtoient la même tristesse dans une énergie et une créativité débordantes. Anaïs Brémond nous en donne un reportage documentaire plutôt optimiste, Palestine Underground. Corian Hebdo vous a fait écouter une première fois début janvier. Bonjour Anaïs Brémond.
Bonjour.
Journaliste et productrice de documentaires, votre travail est centré sur les liens entre la musique, la pop culture et la géopolitique aussi. C'est dans ce cadre que vous proposez le film sur la Palestine qui s'appelle Palestine Underground. Quand et où a-t-il été tourné ?
Alors, il a été tourné au cours d'une semaine entre l'Israël et la Palestine en juin 2018. Et je travaillais à l'époque pour une plateforme musicale, digitale qui s'appelle Ballroom à Londres. Et ça faisait un an qu'on voulait organiser la première soirée, le premier concert à Ramallah en Cisjordanie. Et c'est dans le cadre de nos recherches et de nos dialogues avec tous les artistes de cette scène musicale qui est donc basée à Ramallah que nous nous sommes rendus compte avec mon équipe qu'il y avait des liens entre les Palestiniens, que certains appellent Arabes israéliens, qui vivent donc en Israël, et les Palestiniens en Cisjordanie, et que nous avons voulu documenter cette scène musicale qui résiste à vivre malgré la division et la situation politique.
Pourquoi avoir montré dès les premières minutes un DJ de Ramallah qui franchit illégalement le mur pour se rendre à Haïfa ?
Il y a une raison assez simple, en fait, c'est que dans le secteur digital, en tout cas nos documentaires, ils sont d'abord vus sur Facebook, certains morceaux sur Instagram, sur YouTube. C'est que la plupart des gens avec qui je travaille, ils viennent pas du tout du milieu du film, ils viennent vraiment du milieu du marketing. Et qu'il y avait un côté, il fallait aller au plus percutant et avoir les images qui allaient pouvoir intéresser une grande partie du public. Et que c'était les images les plus fortes pour expliquer la métaphore de ce que c'est que pour ces artistes de devoir se rendre à Haïfa. La plupart n'ont pas le visa, n'ont pas la permission d'aller jouer à Haïfa, où il y a une grande communauté palestinienne, une grande communauté arabe, et donc certains doivent passer au-dessus du mur illégalement pour pouvoir jouer s'ils n'ont pas de permis que Israël leur donne.
Donc ça veut dire que régulièrement il y a des Palestiniens de Cisjordanie qui passent illégalement en Israël, par exemple des musiciens, ça arrive.
Oui, ça arrive. Ça arrive parce que le processus, en fait, de permission. Enfin, quand on passe assez de temps dans la région, on comprend qu'en fait, la première chose que les gens se parlent entre eux, c'est quel type de passeport, quel type de carte d'identité tu as. Est-ce que c'est verte? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est un passeport israélien? Parce qu'il y a pas mal de Palestiniens, je crois 20% de la population israélienne qui ont un passeport israélien. Et du coup, en fonction de ce permis, leur liberté de mouvement va dépendre grandement. Et du coup, parfois, il y a des artistes qui sont de Ramallah, qui veulent jouer un concert à Haïfa, par exemple, ou à Jaffa, qui est une ville en bas de Tel Aviv, qui était une ville qui précédait Tel Aviv, et qui n'ont pas la permission d'aller jouer, parce que l'État d'Israël ne leur donne pas la permission pour parfois de bonnes, parfois de mauvaises raisons, et que du coup, certains prennent cette mesure de sauter le mur pour pouvoir juste avoir cette liberté d'expression qui est de jouer de la musique à d'autres passionnés de musique.
L'un des animateurs des soirées à Haïfa déclare « On n'est pas seulement des DJs ou des organisateurs de soirées, on est des créateurs, on rassemble des gens, on forme un pont avec la Cisjordanie. » Il y a donc une volonté politique derrière ces événements festifs ?
Oui, tout à fait. Enfin, par exemple, Cabaret, qui est l'une des salles dans laquelle on a passé pas mal de temps dans le documentaire, c'est l'une des premières salles de concert qui est tenue par des Palestiniens à Haïfa depuis la création d'Israël. Donc symboliquement, c'est très important parce que ça permet à de jeunes Palestiniens qui habitent en Israël, qui n'ont pas le droit ou qui ne sont pas la bienvenue de rentrer pour aller dans des clubs israéliens, par exemple, de créer un espace dans lequel ils se sentent chez eux, en famille, tolérés, qui ne sont pas victimes de racisme ou que la question du conflit n'est pas dans ces moments qui sont censés être des moments de détente, de relax, de rencontre, etc. Et puis au-delà de ça, c'est que les Palestiniens qui vivent en Israël, ils n'ont pas eu le choix, ils sont nés dans ce pays, parfois qui s'est formé autour d'eux ou autour de leur famille, au-delà des générations. Ils veulent créer un pont avec des jeunes Palestiniens qui sont en Cisjordanie. Eux, ils sont nés, ils parlent hébreu. Et évidemment, les gens qui habitent en Cisjordanie ne parlent pas hébreu, ils parlent que arabe. Donc il y a aussi ce désir de vouloir créer un lien, en fait, et de faire ça à travers la musique, et puis de permettre à des jeunes personnes qui s'intéressent à la région de venir et de discuter de musique ou autre dans ces lieux. Mais définitivement, il y a une visée politique à ces soirées.
Can you get it? كل قرود السيرك القط يكسب لو بنلعب لعبة طيف اللي ربطك مش ربطني واخد اعصى من الجيش ما بقولش بين الميز بشخ اكل وبجيب منك زيت.
Madedeji dit que dans le monde arabe, certains ne savent même pas qu'il y a des Palestiniens en Israël. Et pourtant, ajoute-t-il, nous luttons tous les jours pour maintenir et développer notre culture. Est-ce que ces soirées, c'est aussi pour lutter contre l'indifférence du reste du monde arabe ?
L'indifférence, oui. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes dans le monde arabe, évidemment, ne peuvent pas, que ce soit diplomatiquement, leur pays n'ont pas de lien, ne reconnaissent pas l'État d'Israël, mais peut-être oublient qu'il y a une grande partie de la population qui est arabe dans ce pays et qui a aussi envie de connecter avec d'autres jeunes du monde arabe. Donc oui, peut-être c'est un moyen de rester présent. Par exemple, ce DJ donc, que vous avez cité, ils organisent le premier festival de cinéma indépendant à Haïfa. Donc Haïfa qui est en Israël, je crois que c'est la 4e ou 5e année cette année. Bah, ils mettent des films palestiniens à l'affiche, des films du monde arabe, des films d'un peu partout d'ailleurs. Mais c'est vraiment un festival qui est indépendant et qui permet de réunir des gens. Donc en fait, c'est tous les gens qu'on a documentés dans ce film, ils font vraiment partie de cette notion d'utiliser la culture en fait pour faire des ponts et essayer de parler de politique et de faire des liens.
Alors, en organisant ces soirées purement arabes-palestiniennes, mais où tout le monde est le bienvenu, y compris d'ailleurs les juifs israéliens, lorsque cela se passe à Haïfa ou à Jaffa, est-ce une sorte de thérapie face à la crise identitaire à laquelle les Palestiniens d'Israël sont confrontés ?
Oui, c'est ce que dit un des DJ de Jazzar Crew dans le film. Je pense qu'il y a définitivement cette notion-là. Ils ont des amis, évidemment, juifs israéliens qui viennent, mais c'est des gens qui sont souvent très politisés, antisionistes parfois, ou en tout cas qui vraiment sont en faveur de la notion de deux États et qui veulent que l'État palestinien soit reconnu comme tel, tout en souhaitant que l'État d'Israël soit reconnu également. Voilà, donc je pense que de créer des endroits où ce genre de rencontres puisse se faire, mais aussi où les gens palestiniens en Israël ne se sentent pas opprimés pour quelques secondes, parce que évidemment la réalité est très opprimante pour ces gens, que ce soit dans la vie nocturne. La première chose qu'une personne qui travaille dans un club va demander, c'est la carte de service militaire. Et évidemment, tous les Arabes israéliens ne font pas le service militaire. Donc, d'une part, ils ne peuvent pas rentrer dans les clubs. Donc, le fait d'avoir un club où ils ne doivent pas montrer ce pass leur permet déjà de limiter ce sentiment d'oppression dans le contexte où ils sont chez eux. Donc, voilà.
Dans le reportage, Mukata, ça veut dire boycott, je crois, ou interférence, va enregistrer du son d'ambiance à Ramallah. Est-ce pour lui une façon de se connecter à la vie réelle ?
Je pense qu'il y a un côté qui est purement créatif. Après, c'est difficile de parler à sa place, parce qu'évidemment, je suis pas là. Moi, je l'ai juste interviewé pour voir un peu quelle était la logique. Je sais pas s'il fait ça pour se connecter à la vie réelle, mais en tout cas, il s'inspire des sons de tous les jours. Et c'est vrai que mon kata, il vit à Ramallah, et étant donné que il a pas cette liberté de mouvement aussi facile que d'autres, par exemple que ses amis qui sont palestiniens mais en Israël, ben je pense qu'il s'inspire beaucoup des sons qui dans ses alentours, et qu'il sample ça, qu'il intègre ça dans sa musique. Et lui, c'est un beatmaker, il fait du hip-hop, et donc ça lui permet de rendre ce son qui vient des États-Unis, de le rendre local en fait, et de lui donner un contexte qui s'apprête plutôt à sa vie de tous les jours. Ben, je pense que c'est vrai.
Orient Hebdo sur RFI.
صوتي لن تكتم صوتي إنه الآن وتر وحيد يقاوم كحبل غسيل تطاله الريح
Moukata, c'est un DJ hein, issu de Ramallah, où il avait d'ailleurs fondé un groupe musical, Ramallah Underground. Il dit ceci: notre culture est en train d'être effacée, d'être volée. Est-ce que sa musique, finalement, est une manière de résister à cet effacement?
Oui, Moukata vraiment a ce message-là, qu'à travers sa musique et le fait d'être palestinien, le fait de parler d'être palestinien et de créer un son qui peut avoir des répercussions partout dans le monde et peut être apprécié par des gens partout dans le monde, ça lui permet de résister, parce que même si sa musique, ses paroles vont pas forcément parler de la question palestinienne ou du conflit, de par le fait qu'il est palestinien et qu'il est arabe et qu'il existe en 2019, c'est politique et il y a une résistance là-dedans. Après, lui, c'est un musicien, donc ce qui l'intéresse, c'est de créer de la musique, de l'art qui va pouvoir transcender ces questions politiques, ces questions géopolitiques locales, d'histoire de conflits et des questions identitaires au final de palestiniens, arabes, etc. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est que de faire de la musique qui soit reconnue et qu'on dise « Ah, j'adore ce son !» sans vraiment savoir d'où il est. Et là, je crois qu'au niveau de sa carrière, c'est vraiment en train d'évoluer de cette manière-là et d'aller au-delà de ces questions identitaires, parce que pour lui, c'est le vrai but, en fait. C'est de se détacher de ces étiquettes palestiniens, etc. Et évidemment que à travers le film, c'était très difficile de se détacher de cette étiquette. Ça fait une décennie qu'il fait de la musique et il a réussi à aller au-delà de ça, je pense. رصد السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك. Alors il y a Moukata qui a donc aidé au développement du hip-hop en Cisjordanie, mais il y a aussi, il y en a plein d'autres. Il y a par exemple Sama, et elle, par exemple, elle organise une soirée dans un bar en plein centre de Ramallah. C'est incroyable. Alors, c'était une amie à elle qui s'appelle Fida Kiwan qui organisait une soirée en plein centre de Ramallah. Mais Sama, c'est une DJ qui a une carrière incroyable. Depuis qu'elle a fait cette Boiler Room, elle est devenue une des DJ de techno les plus prisées, et elle fait des tournées partout dans le monde. Elle fait 4-5 concerts par semaine, elle a une montée fulgurante. Donc elle, c'est plutôt une DJ techno plutôt que de hip-hop. Mais moi, j'étais en Palestine là, le week-end dernier, justement parce que le DJ dont vous parliez, Odai, qui saute le mur au début du film, il a organisé son premier festival de musique expérimentale, techno, alternative, de basse, à Ramallah. Donc j'y suis retournée pour la deuxième fois depuis le tournage du film, et c'était très intéressant de voir de la manière dont les choses avaient évolué depuis qu'on a tourné ce documentaire. Et il y a un vrai désir de créer, de nourrir une scène musicale locale, mais aussi de connecter avec des artistes du monde entier. Il y avait des artistes d'Angleterre, des artistes d'Allemagne, des artistes des États-Unis qui sont venus pour jouer pour la scène locale, de soutenir le mouvement et de faire en sorte que, voilà, que beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas sortir de Cisjordanie facilement puissent voir la musique qu'ils aiment, en fait.
Alors, autre élément, c'est que l'autorité palestinienne en Cisjordanie, en tout cas, interdit la musique après minuit. Est-ce que ça veut dire que les soirées qui sont organisées par ces DJ dans le domaine hip-hop sont avant tout privées ?
elles sont pas privées, non. Par exemple, là, le week-end dernier, comme je vous le disais, on est allé au même endroit où on avait organisé la soirée Boiler Room. C'est un club qui s'appelle Radio, qui est à Ramallah, près du centre. Et c'était public, il fallait juste acheter des tickets et être au courant. Tout le monde peut y aller. À minuit, la musique coupe. Et si les gens veulent continuer à faire la fête, ils organisent des afters dans des apparts privés. Et là, évidemment, il faut connaître l'un ou l'autre parce qu'il n'y aura pas de bar qui va servir de l'alcool après minuit puisque l'autorité palestinienne ne le permet pas. Mais les gens comprennent très bien que, voilà, que c'est la culture et que c'est le contexte qu'ils demandent.
Le lien entre les deux, côté israélien, côté palestinien, Cisjordanie, est-ce qu'il est plus facile d'un certain côté que de l'autre, notamment dans le mouvement? C'est-à-dire que les Israéliens, Palestiniens et Israéliens, peuvent-ils venir plus facilement en Cisjordanie que l'inverse? Et quelles conséquences ça a pour le mouvement hip-hop palestinien?
Tout à fait, oui, vous l'avez dit. En fait, le fait est que les Palestiniens qui sont munis d'un passeport israélien, parce qu'ils vivent en Israël et qu'ils sont nés en Israël, peuvent tout à fait rentrer dans l'ère A, la Cisjordanie, de manière facile et en sortir, alors que chaque personne qui est palestinienne vivant en Cisjordanie, qui n'a pas un autre passeport, que ce soit un passeport jordanien ou parfois certains ont des passeports américains ou autres, ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils le veulent. Donc évidemment que ça a un impact sur la scène musicale. Par exemple, depuis le documentaire qui a permis à beaucoup de ces artistes d'être reconnus en Europe ou en Afrique du Nord pour certains et en Amérique, c'est beaucoup plus facile en fait de faire des bookings, d'organiser des concerts avec des gens qui ont un passeport israélien parce qu'il n'y a pas de visa à payer. Donc évidemment qu'il va y avoir l'inégalité en termes de liberté de mouvement va avoir un effet boule de neige sur la manière dont la scène musicale se développe. Donc il y a, par exemple, je le vois très bien, il y a beaucoup de rappeurs et de producteurs basés à Ramallah qui sont hyper talentueux et qui ont très envie de jouer. Par exemple, j'essayais d'organiser un concert à Bristol en Angleterre qui est vraiment il y a un vrai public pour eux, mais il a fallu organiser un rendez-vous pour qu'ils puissent déjà avoir un visa. Et le moment où l'artiste s'est pointé à la frontière pour aller à Jérusalem dans la partie israélienne pour pouvoir faire la demande de visa, ils n'auraient pas pu rentrer. Donc son rendez-vous qui lui a mis 2 mois à avoir a été annulé et il n'a pas pu aller jouer. Et puis en plus de ça, ça coûte 200 euros de payer pour un visa. Le processus est tellement compliqué et alambiqué que c'est très dur pour ces artistes de sortir. Donc évidemment que ça a un effet totalement néfaste et que c'est très démoralisant pour ces artistes parce qu'ils sont hyper talentueux, qu'ils ont envie de jouer ailleurs, de sortir, et ils sont étouffés en fait. Et que ça se voit et c'est vraiment triste. Ouais.
Merci Anaïs Brémond.
Merci.
Palestine Underground, un documentaire que l'on peut notamment visionner sur YouTube. Merci à Mathias Golshani qui a mis en onde ce nouveau numéro d'Orient Hebdo, illustré par des musiques de Mukata et Sama DJ 7. Restez fidèles à votre radio mondiale. On se retrouve samedi prochain à la même heure à suivre le journal.
Sur RFI.